19h, bienvenue sur Europe 1.
Pour l'instant, dans le développement de ces vaccins, il n'y a aucun signal en termes de risque et d'effets indésirables graves.
C'est parti, Emmanuel Macron précise le calendrier vaccinal.
Le grand public devrait pouvoir bénéficier d'une vaccination dès le printemps prochain.
Vaccination que le monde entier attend, mais qui ne suffira pas à stopper le désastre économique engendré par cette pandémie, nous dira Didier François.
Le gouvernement au chevet des agriculteurs en souffrance, objectif, mieux les accompagner pour prévenir les suicides.
Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. 6 ministères mis à l'amende pour ne pas assez promouvoir les femmes. Et puis on rendra hommage à la fin de ce journal à une femme juste une amoureuse des mots qui a su conquérir les petits et les grands, la chanteuse Anne Sylvestre.
Et puis une femme qui a su conquérir les nuages, c'est Anissa qui est avec nous, encore plus frais demain, ma chère Anissa.
Oui, les gelées demain matin vont concerner le sud, hein, cette fois-ci, il va faire froid du côté de Manosque ou encore Rodez. Dans le ciel, c'est du gris pour presque tout le monde, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Alors que la France se prépare à l'arrivée des premiers vaccins contre la Covid-19, Emmanuel Macron a donc confirmé aujourd'hui que les premières vaccinations interviendront entre fin décembre et début janvier.
Et qu'elles concerneraient en priorité les résidents des EHPAD. Hier, la Haute Autorité de Santé a préconisé une vaccination des Français en 5 phases. Et cet après-midi, le chef de l'État a donc précisé ce calendrier, Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, cela ne se fera pas avant le printemps pour le grand public. Quelque part entre avril et juin, précise Emmanuel Macron. Avec ce détail, il ne sera pas obligatoire de se faire vacciner. Ce sera la dernière des 5 phases de cette stratégie, car avant et en premier lieu, ce seront les personnes âgées résidentes en EHPAD qui pourront bénéficier des premières générations de vaccins. Fin décembre, début janvier, cela peut paraître tôt dans le calendrier, mais pas tant que ça, à en croire le professeur Odile Launay, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Cochin.
On va vacciner des gens pour lequel, s'ils sont infectés, le risque de développer une forme grave, voire de décéder de la maladie, est plus important. Donc, en vaccination, c'est toujours un rapport bénéfice-risque. Donc, les risques du vaccin, c'est les risques potentiels d'effets indésirables sévères ou graves. Et pour l'instant, dans le développement de ces vaccins, il n'y a aucun signal en termes de risque et d'effets indésirables graves.
Suivront les personnels sanitaires, puis les plus de 50 ans. Ensuite, ce seront les personnes dont le métier favorise une infection. Toutes les doses sont réparties par la Commission européenne vers chaque État membre. Ceci pour éviter toute course entre les pays, des pays qui appliquent leur propre stratégie de vaccination. À charge aussi pour les gouvernements de convaincre les plus réticents et d'assurer une logistique d'approvisionnement sans faille.
Jean-Sébastien Soldaini a noté qu'après Moderna hier aux États-Unis, c'est au tour de Pfizer-BioNTech de formuler aujourd'hui sa demande d'autorisation de mise sur le marché de son vaccin. L'agence européenne se donne jusqu'au 29 décembre pour donner son feu vert.
Alors un vaccin, c'est évidemment formidable, mais ça n'empêchera pas un désastre économique.
Oui, les effets de la pandémie sont dramatiques, peut-être encore plus que ce que l'on redoutait. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Selon un rapport de l'ONU publié aujourd'hui, 249 millions d'humains sont menacés d'extrême pauvreté.
Oui, alors c'est une augmentation de 40% en seulement une année, c'est du jamais vu et c'est absolument dramatique, hein, sachant que l'extrême pauvreté, c'est quand même vivre avec 1,5 euro par jour. Et le constat est d'autant plus terrible que la solidarité internationale, les aides au développement et puis la croissance réelle de plusieurs pays dits à revenus intermédiaires faisaient que ce taux de pauvreté était en constante régression depuis 1990, 31 ans. Il était passé de 44% de la population mondiale à moins de 13% en 2020, ce qui est un progrès vraiment considérable. Concrètement, un tiers des pays en voie de développement avaient réussi à réduire de moitié les taux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Et les progrès étaient tels que l'objectif des Nations Unies et puis de son agence, le Programme Mondial d'Alimentation, qui d'ailleurs a obtenu le prix Nobel de la paix l'année passée pour saluer le succès de son action, eh bien, il pensait totalement éradiquer la famine d'ici à 2030. Or, évidemment, les situations de guerre et de catastrophes naturelles. On voit bien donc à quel point le Covid-19 ou la Covid-19 aura des conséquences de long terme qui iront bien au-delà du seul bilan actuel d'1,5 million de malades décédés dans le monde.
La crise économique, Didier, liée à la pandémie, pourrait également provoquer des famines meurtrières.
Alors tout à fait, et elle frappera évidemment plus durement encore tous ceux qui vivaient déjà sur le fil du rasoir. L'ONU estime qu'il lui faudrait lever plus de 30 milliards d'euros maintenant, cette année, pour espérer amortir le choc économique dans 56 pays, ceux qui justement étaient déjà affaiblis par les conflits et les bouleversements climatiques et qui donc souffrent d'insécurité chronique alimentaire. Seulement cette année, eh bien, les pays les plus riches, qui sont les pays donateurs, doivent également mobiliser leurs ressources pour aider leurs propres citoyens, surtout les plus fragiles, qui ont eux aussi été pénalisés par la pandémie. Et les sommes faramineuses débloquées pour les plans de relance, en Europe particulièrement, eh bien, ne seront plus disponibles pour un financement à ce niveau de l'aide humanitaire internationale.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
On parlait il y a quelques instants des annonces d'Emmanuel Macron concernant la campagne de vaccination. Eh bien, le chef de l'État s'est également exprimé cet après-midi sur les vacances de fin d'année au sport d'hiver. Vous savez que les remontées mécaniques seront fermées en France. Eh bien, le président met en garde ceux qui auraient la tentation d'aller skier à l'étranger. Le gouvernement envisage de prendre des mesures restrictives et dissuasives, sans plus de précision pour l'instant.
À la une également ce soir, ce constat terrible. Chaque jour, au moins un agriculteur en France met fin à ses jours, plus d'un par jour même.
Comment prévenir et éviter de tels drames? Le député de La République En Marche du Lot et Garonne, Olivier Damaisin, a remis aujourd'hui un rapport sur le sujet au Premier ministre. Rapport qui préconise d'accompagner plus précocement les agriculteurs en difficulté, Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, mieux repérer les éleveurs, les agriculteurs en situation de détresse. C'est l'objectif de ce rapport de 80 pages remis tout à l'heure à Jean Castex. La prévention du mal-être doit commencer très tôt avec une sensibilisation dès l'installation de l'agriculteur, souligne le député Olivier Damaisin, auteur du rapport. Après 300 auditions et 9 mois de travaux, il préconise la création d'un référent départemental pour mieux alerter.
On est vraiment une personne identifiée dans chaque département. Qu'on ait monsieur mal-être agricole, qui est une personne qui soit... C'est pas une assistance sociale qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui soit au-dessus, qui gère le réseau. Le plus important dans cette mission, c'est retrouver de l'humain.
Retrouver de l'humain, rompre l'isolement, car c'est bien l'un des facteurs qui pousse au suicide. Un sujet encore tabou, mis en lumière par le film « Au nom de la terre » du réalisateur Édouard Bergeon.
Ça leur a fait voir aux familles d'agriculteurs qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils pouvaient parler de leurs problèmes. Et en tout cas, il y a une parole qui s'est libérée. Ça solutionne pas tout, mais déjà, peut-être qu'ils se sentent plus à l'écoute.
Une meilleure écoute qui passe aussi par une meilleure reconnaissance du métier d'agriculteur. On a beaucoup parlé de l'agribashing qui peut se cumuler avec les autres difficultés. Le député Olivier Damaisin plaide aussi pour une publication annuelle du taux de mortalité par suicide. Il n'est pas normal, explique-t-il, que les chiffres les plus récents datent de 2015. Il y a 5 ans, on avait comptabilisé 372 suicides d'exploitants agricoles, soit plus d'un par jour.
Jean-Gabriel Bourgeois. 3,5 millions de personnes privées de télé et de radio dans le sud-est aujourd'hui après l'incendie d'un site de télédiffusion de France, incendie qui s'est confirmé est d'origine criminelle, hein, Stéphane Frangy.
Ah oui, on peut parler d'actes malveillants puisque l'intrusion, l'incendie du local technique aurait été capté par des caméras de vidéosurveillance en plein cœur de la nuit dans ce site du massif de l'Étoile qui est sécurisé. C'est une action qui semble donc bien préparée. Et même si les enquêteurs ne livrent pour l'heure aucune conclusion, eh bien on repense forcément à toutes ces attaques de pylônes de télécommunications cette année, que ce soit dans le Jura ou encore en Isère, par des activistes qui s'opposent au déploiement prochain de la 5G. Aucune revendication pour l'heure, mais des conséquences techniques sur le réseau hertzien, vous l'avez souligné, sur 6 départements, entre l'Hérault jusqu'au Var, partiellement les Alpes de Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, 25 chaînes de télévision de la TNT et 19 stations de radio de la bande FM sont impactées pour une durée indéterminée. Europe 1 ne fait pas partie de celles qui sont coupées pour l'heure.
Ouf, merci Stéphane Frangy en direct de Marseille pour Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous 19h08 dans quelques secondes. 6 ministères mis à l'amende pour ne pas assez promouvoir les femmes.
Et une femme, justement, à qui ça n'aurait pas plu du tout, la chanteuse Anne Sylvestre, grande féministe qui vient de disparaître.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Suite de votre journal avec Isabelle Millet. L'égalité femmes-hommes, grande cause. Vous vous souvenez du quinquennat Macron? Enfin, paraît-il, parce qu'en matière d'égalité, les services de l'État ne donnent pas vraiment l'exemple.
Effectivement, et ça l'affiche mal, hein, comme on dit. Olivier Samin, 6 ministères viennent d'être mis à l'amende pour non-respect des quotas.
Oui, notamment l'obligation de faire en sorte qu'en 2017, 40% au moins des hauts fonctionnaires nommés à des postes à haute responsabilité dans l'administration soient des femmes. Eh bien, on en est encore loin dans certains grands ministères. L'intérieur, l'agriculture, les affaires étrangères, les armées et surtout Bercy, où en 2018, 27% seulement des hauts fonctionnaires nommés pour la première fois dans les hautes sphères étaient des femmes. Mylène Jacquot est secrétaire générale de la CFDT Fonction publique. Voici ce qu'elle répond quand on lui demande si ça l'étonne.
Étonné, malheureusement, non, dans un ministère qui est connu pour être plus masculin que d'autres. Mais le manque d'étonnement n'empêche pas la colère. Une colère qui est liée à l'écart qu'on constate entre les discours sur l'égalité professionnelle et la réalité qui est donnée à cette priorité de faire accéder des femmes à des emplois dirigeants dans l'administration française, que ce soit dans l'administration de l'État ou dans les collectivités d'ailleurs.
Pour non-respect de ces quotas, les 6 ministères épinglés ont été condamnés à un peu plus de 4 millions d'euros de pénalités financières. Le ministère des Finances étant le plus mauvais élève, c'est lui qui a écopé de la plus grosse amende, 900 000 euros.
Olivier Samin du service Écho d'Europe 1. Le droit des femmes, un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, justement. La chanteuse Anne Sylvestre, qui a accompagné des générations d'enfants avec ses fabulettes, mais qui était aussi, et peut-être même surtout, une chanteuse à texte.
Une auteure talentueuse, femme engagée, qui vient de s'éteindre à 86 ans. Elle aimait la poésie et les mots. Angèle Châtelier revient sur son parcours.
Le grand amour d'Anne Sylvestre, c'était les lettres, qu'elle étudie à Paris, tout juste arrivée de la banlieue lyonnaise, avant d'en faire des chansons. Son premier succès musical, Mon mari est parti, sorti en 1961.
Mais que voulez-vous bien que le printemps me donne, je suis seule.
Femme des cabarets, Anne Sylvestre est rapidement devenue la tête d'affiche de grandes salles, à guichets fermés. Dedans, tous les publics, adultes comme enfants, à qui elle chantait les fabulettes.
Les autos ronronnent, les horloges sonnent.
Mais il y a aussi Anne Sylvestre l'engagée, pour l'environnement, les minorité et le droit des femmes. Elle évoque l'emprise dans le couple, le viol et met des mots et de la musique sur l'avortement qu'elle prône dès 1974 dans Non, tu n'as pas de nom.
Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense.
Anne Sylvestre était empathique, tellement que lorsque Europe 1 lui demandait sa recette du bonheur, c'est des autres qu'elle parlait.
C'est, je pense, déjà de savoir que les gens qu'on aime sont bien. Savoir où ils sont. Moi, j'aime toujours pouvoir situer les gens qui me sont proches et savoir qu'ils vont bien.
Des proches comme son public, elle affectionnait, même s'il pouvait leur arriver de ne pas être sûr d'eux. Car Anne Sylvestre restera toujours celle qui aimait les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps.
Anne Sylvestre qui vient donc de s'éteindre à 86 ans. Un petit peu de sport quand même, je vous rappelle qu'en foot, Marseille reçoit ce soir à partir de 21h au stade Vélodrome l'Olympiakos, l'OM déjà éliminé mais qui espère sauver l'honneur après 13 défaites consécutives. Et puis lui, il mérite tous les honneurs du monde. Jean Le Cam qui a sauvé la nuit dernière Kevin Escoffier dans le Vendée Globe. Les deux skippers en solitaire sont sont deux désormais à bord d'un bateau où a priori on est tout seul. Pas pour longtemps puisque d'ici quelques jours un navire devrait récupérer Escoffier, permettre à Jean Le Cam de poursuivre son aventure.
Vous savez quoi, c'est la fin du journal, vous pouvez aller faire dodo maintenant, ma chère Isabelle. À demain.